Chers frères et sœurs, en cette solennité de l'Épiphanie, où nous allons comme achever notre temps de Noël, puisque demain nous le conclurons avec la fête du baptême du Seigneur. Je vous remercie d'être venus, les prêtres, en particulier après une journée chargée dans les paroisses, et vous tous, chers frères et sœurs, pour une messe d'action de grâce. Pour Benoît XVI, qui vient en effet de nous quitter. Comme vous le savez, j'étais à Rome jeudi pour ses funérailles qui étaient présidées par notre pape François, avec une foule nombreuse, 50 000 personnes dit-on, qui étaient plongées dans un grand recueillement, dans un grand silence, dans une prière très intérieur. C'est ce qui a marqué sans doute tous ces jours qui ont précédé ses funérailles depuis l'annonce de sa mort le 31 décembre dernier. 200 000 fidèles sont venus se recueillir pendant ces trois jours sur sa dépouille mortelle exposée à leur vénération dans la basilique Saint-Pierre, et on disait qu'ils étaient très silencieux, très priants, très émus aussi de venir saluer une dernière fois celui qui a été notre pape pendant à peine 8 ans. Et pourtant, vous le savez bien, que ce pontificat n'a pas été une parenthèse dans la vie de l'Église. D'abord parce qu'il nous laisse un héritage spirituel et intellectuel colossal. On lira Benoît XVI dans 200, 300 ans, 400 ans, comme on lit encore aujourd'hui saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Léon le Grand. Mais aussi parce que ce bref pontificat vient conclure 24 ans de présence comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et donc comme le plus proche collaborateur pendant toutes ces années du Saint-Pape Jean-Paul II, dont le pontificat a été en effet si long et si marquant pour l'histoire de l'Église de notre temps, et qu'il a achevé son service, comme il le dit lui-même, dans la prière, pendant près de 10 ans de pontificat émérite. Vous savez bien que lorsqu'il a annoncé la renonciation à sa charge, après avoir discerné, prié, demandé au Seigneur quelle était sa volonté, il a pensé que ses forces physiques déclinaient trop pour pouvoir continuer à assumer une telle charge de manière efficace pour l'Église. Mais pour autant, il n'a pas déserté. Il n'est pas retourné en Bavière pour couler une retraite tranquille. Il s'est installé au cœur même du Vatican, dans ce petit monastère Mater Ecclesiae, mère de l'Église, pour consacrer ses dernières années à la prière et continuer à servir l'Église dans la prière. Et c'est dans la prière que le Seigneur est venu le chercher, à l'âge de 95 ans, alors qu'il était dans la 72e année de son sacerdoce. La solennité de l'Épiphanie est bien providentiellement à même de nous aider à rendre grâce pour Benoît XVI, mais pas pour nous arrêter à Benoît XVI. Vous savez, cette cérémonie à laquelle vous avez pu peut-être participer par la télévision était très sobre, très discrète, à son image. Il y avait 400 évêques quand même, 140 cardinaux, et surtout près de 5000 prêtres, et très étonnamment, surtout des jeunes prêtres. Ça dit quelque chose sur la manière dont j'ai la conviction que le pontificat de Benoît XVI, comme celui de son prédécesseur, comme celui de son successeur, marque la vie de l'Église, marque l'avenir de l'Église, d'une manière tout à fait décisive. Le pape Benoît XVI a souvent commenté cet évangile des mages que nous rapporte Matthieu en cette grande solennité de l'Épiphanie. La première fois, c'était à Cologne, où le pape Benoît XVI, de manière providentielle, présidait dans son pays natal ses premières journées mondiales de la jeunesse en août 2005, alors que c'est Jean-Paul II qui avait convoqué la jeunesse, mais Jean-Paul II était mort entre-temps. Et Cologne est précisément le lieu où sont vénérées les reliques des rois mages qui ont été apportées en pèlerinage depuis 1000 ans, au XIIe siècle, pour être recueillies dans ce grand écrin reliquaire qu'est la cathédrale de Cologne, qui fait de Cologne l'un des plus grands lieux de pèlerinage de la chrétienté, après Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle. Il avait commenté admirablement cet évangile des mages en plusieurs parties devant les séminaristes, devant les jeunes rassemblés pour la veillée du soir, avant la messe de clôture et d'envoi. Bien souvent aussi, le jour de l'Épiphanie, il en profitait pour ordonner des évêques. C'était une tradition depuis Saint Jean-Paul II. J'ai moi-même assisté à la dernière solennité de l'Épiphanie qu'il a présidée à Saint-Pierre de Rome le 6 janvier 2013, un mois avant la renonciation à sa charge. Il ordonnait 4 évêques, dont son secrétaire particulier, Mgr Georg Genswein, et aussi un prêtre de la communauté Saint-Martin qui est devenu depuis nonce apostolique au Caire, en Égypte. J'ai un diacre qui vient d'Égypte, voyez. Toutes les nations, aujourd'hui, afflueront devant lui. C'est la mission universelle de l'Église. Les mages venus d'Orient représentent toutes les nations selon la prophétie grandiose d'Isaïe que nous venons d'entendre, alors que les bergers représentaient le peuple d'Israël. Parce que tous, comme nous dit saint Paul, nous avons part à la même, au même héritage, au même corps, en Jésus-Christ, par l'annonce de l'Évangile. Et cet Évangile des mages nous permet de relever quelques traits, seulement quelques traits, parce que ce serait trop long, il y a tellement de choses à dire de Benoît XVI. Quelques traits de sa personnalité et de son service, de son ministère pétrinien. Lui-même se pose la question, lorsqu'il commence à commenter cet évangile, il se dit « Mais qui étaient ces mages ?» Et il dit « Ces mages, c'étaient des chercheurs de Dieu. Ils avaient le cœur inquiet, inquiet pour Dieu et inquiet pour le salut du monde. C'étaient sans doute des intellectuels, des savants. Ils s'inquiétaient en effet du chaos dans lequel le monde était plongé, des graves injustices qui affligeaient l'humanité de leur temps. Alors ils se disaient, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il prend vraiment soin de l'humanité? Ils avaient connaissance du peuple d'Israël, qui était un peuple voisin. Ils savaient qu'ils croyaient en un Dieu qu'ils appelaient le Seigneur, Yahvé. Mais eux ne scrutaient pas l'Écriture qu'ils ne connaissaient pas. Ils scrutaient le ciel. Et c'est alors qu'une étoile s'est levée en Orient, comme ils le diront à Hérode, et qu'ils ont interprété comme étant le signe de la naissance d'un roi, le roi des Juifs. Alors ils se sont dit, ce peuple qui croit en Dieu, peut-être que ce roi des Juifs qui vient de naître a la solution. Il sait qui est Dieu, et il sait comment Dieu prend soin du monde. Peut-être que lui-même est capable de rétablir l'ordre dans ce monde chaotique. Alors ils se sont mis en marche. Ils ont suivi l'étoile. Voyez, on a l'impression que lorsque Benoît XVI exprime quelque chose sur ses mages, il dit quelque chose de lui-même. Car Benoît XVI était avant tout un chercheur de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de cette conférence magistrale qu'il fit aux Bernardins à Paris lors de son voyage apostolique en 2008 au monde de la culture, qui a stupéfait ceux qui étaient dans la salle. Il insistait pour parler du « Querere Deum », « chercher Dieu », qui est la devise même des moines, en l'occurrence, c'était les moines cisterciens. Et il voulait dire par là, non seulement que la recherche de Dieu par les moines était le fondement même de la civilisation européenne, chrétienne, mais il voulait dire surtout qu'il n'y a pas de culture authentique, qu'il n'y a pas de dynamisme culturel humain sans recherche de Dieu. Il avait une âme bénédictine, et c'est la raison pour laquelle il a pris le nom de Benoît, pas seulement à cause de Benoît XV, sans doute aussi son prédécesseur, le pape de la paix lors de la Grande Guerre, entre les Français et les Allemands. C'était un pape allemand, Benoît XVI. Mais surtout parce que Benoît, Saint Benoît, est le patriarche des moines d'Occident, qui n'avait de cesse de chercher Dieu. À tel point que dans sa règle, il demande au père abbé de poser la question au maître des novices qui lui présente un jeune moine pour être admis à la profession. Il lui demande « Si vere Deum querit, est-ce qu'il recherche vraiment Dieu ? Est-ce que vous recherchez vraiment Dieu, chers frères et sœurs ? Est-ce que nous recherchons vraiment Dieu ?» qui a été la quête, l'inquiétude même du cœur de Benoît XVI toute sa vie. Et quand il a trouvé Dieu, il n'a eu de cesse que de permettre aux hommes et aux jeunes, très particulièrement, de chercher Dieu, car il savait, lui, que même si les jeunes ne savent pas toujours le dire aujourd'hui, ils ont soif de Dieu. Ils attendent que l'on ordonne Dieu, que leur montre Dieu, le vrai Dieu, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Sa vie a d'abord été une vie de théologien, de chercheur. La théologie, comme dit saint Anselme, c'est « fides querens intellectum ». C'est la foi qui recherche l'intelligence du mystère, pas pour acquérir un savoir qui nous rendrait prétentieux, mais pour rencontrer ce Dieu, qui est un Dieu vivant, la rencontre avec Dieu, qui était si importante dans le pontificat de Benoît XVI, je me rappelle à Madrid, auprès des jeunes, et comme il le dit dans sa première encyclique en 2005, « Deus caritas est », à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ou une décision éthique, mais il y a une rencontre avec un événement, une personne qui donnait à la vie un nouvel horizon, et par là, son orientation décisive. Est-ce que vous cherchez Dieu ? Est-ce que vous donnez à Dieu la première place dans votre existence ? Car comme le dit Benoît XVI aussi dans cette homélie, il dit « Le cœur ne peut être inquiet du salut de ses frères que s'il est d'abord inquiet pour Dieu. » Parce que Dieu seul est inquiet de l'homme. Dieu seul veut sauver l'homme. Dieu seul peut sauver l'homme. Voilà pourquoi plus nous sommes tournés vers Dieu, plus nous sommes capables de prendre soin de nos frères et de nos sœurs en humanité, à commencer par les plus petits, les plus faibles, les plus blessés. Et sa recherche de Dieu qui a guidé toute sa vie, après qu'il ait renoncé à sa charge de successeur de Pierre, il l'a continué dans la prière. L'inquiétude pour Dieu, c'est le désir de Dieu, l'expression du désir, comme dit saint Augustin, qui est le maître à penser, pourrait-on dire, de Benoît XVI. C'est la prière. Il a, pendant 10 années, approfondi cette relation d'intimité avec le Seigneur qui lui aura arraché comme ultime parole, avant de sombrer dans le sommeil de la mort, en italien, lui qui était allemand, c'est dire combien l'Italie le marquait depuis qu'il y était. « Signore, ti amo. » « Seigneur, je t'aime. » Expression spontanée sans doute de cette relation d'intimité qu'il entretenait avec le Seigneur, mais vous vous rappelez aussi que c'est la triple profession d'amour de Simon-Pierre au bord du lac de Tibériade, interrogé par Jésus avant de lui confier la mission de paître son troupeau. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et c'est dans cet amour que nous-mêmes, pasteurs, évêques, prêtres, nous pouvons puiser la raison d'être de notre mission pastorale. Car c'est à cause de cet amour pour le Christ que Jésus dit à Simon-Pierre, « Sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux. » Alors voilà un hommage qui continuent leur pèlerinage et, providentiellement, lorsqu'ils approchent de Jérusalem, l'étoile décline. Alors il se dit, ben, c'est là, sans doute, qu'est né le roi des Juifs, et la norme veut qu'un roi naisse dans un palais. Ils vont frapper à la porte du palais d'Hérode pour lui dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile se lever en Orient et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. » Hérode, qui devrait connaître les Écritures, lui qui appartient à ce peuple juif, est tellement imbu de lui-même et de son pouvoir qu'il saisit tout à coup que cet enfant pourrait devenir un rival. Mais il demande aux scribes, aux docteurs de la loi qui scrutent les Écritures, et il leur est facile de leur trouver la prophétie de Michée, Bethléem, Ephrata, tu es le moindre des clans de Juda, de toi sortira un roi, ce sera celui qui sera le berger de mon peuple, Israël. Il fallait que les mages passent par Jérusalem, que l'étoile qui les conduisait devienne la parole de Dieu, car sans la parole, nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. Celui qui ignore les Écritures, comme disait saint Jérôme, ignore le Christ. C'est la parole qui nous conduit à Jésus, au vrai Jésus. Une parole vivante qui nous conduit à Jésus, vivant, pour que nous puissions croire en lui. La foi vient de ce que l'on entend, nous dit saint Paul. Et la parole les met sur le chemin, l'étoile réapparaît et elle s'arrête au-dessus du lieu où était né l'enfant. Et ils se réjouissaient d'une très grande joie. Est-ce que c'est notre joie, lorsque nous arrivons nous aussi, à reconnaître, à cause de la parole de Dieu qui nous éclaire sans cesse, celui qui vient? Fallait-il que leur pèlerinage extérieur soit l'expression d'un cheminement intérieur, pour que leur cœur soit capable de comprendre, contre toute attente, que ce roi qu'ils attendaient, capable de sauver le monde, ne venait pas avec puissance ou avec éclat. Il gisait là, dans une mangeoire, dans une crèche, un nouveau-né impuissant, emmailloté, qui continue d'être présent, posé sur l'autel de la messe, sous les apparences humbles et dérisoires de l'hostie, du pain consacré. Chers frères et sœurs, quel métanoïa, quelle conversion, quel changement de mentalité le Seigneur avait obtenu de ses mages pour qu'ils le reconnaissent, et qu'ils reconnaissent en lui apportant l'or et l'encens, annoncé déjà par Isaïe dans la première lecture que nous avons entendue, le roi et leur Dieu, à travers un tout petit enfant, et l'encens de manière, et le, et la myrrhe de manière mystérieuse, qui annonçait sa passion, et qui leur faisait comprendre que Jésus est venu dans le monde, Dieu lui-même en Jésus, pour sauver l'humanité, pour changer les cœurs, car on ne change pas les structures si le cœur de l'homme n'est pas changé intérieurement. Et Jésus seul peut changer le cœur de l'homme. Non pas avec éclat, non pas avec puissance, non pas en levant une armée, mais par l'amour, c'est-à-dire le don total de lui-même, à travers sa passion et sa mort sur la croix, qui sont annoncés prophétiquement par la myrrhe déposée au pied du nouveau-né, par les mages. C'est merveilleux, parce qu'ils ont compris eux aussi qu'il fallait retourner chez eux par un autre chemin. Pas seulement pour éviter d'aller trouver Hérode qui en voulait un enfant, ils avaient été avertis en effet en songe qu'Hérode voulait tuer l'enfant, mais parce qu'ils ont changé de mentalité, ils ont donné leur vie à travers l'or, l'encens, la myrrhe, c'est leur vie qu'ils ont apportée. Chers frères et sœurs, c'est cela que Jésus attend de nous. L'adoration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître Jésus comme notre roi et notre Dieu, comme capable de sauver l'humanité par le don de lui-même, nous invitons nous-mêmes à donner notre vie. Je me souviens du pape Benoît XVI à Madrid, à ces journées mondiales de la jeunesse mémorables, car en Europe, si l'on accepte L'an 2000, le grand jubilé à Tor Vergata à Rome, c'est là qu'il y a eu le plus de jeunes rassemblés pour des JMJ en Europe. Plus de 2 millions de jeunes. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une terrible tempête qui s'est abattue sur cette jeunesse rassemblée avec des pylônes qui tombaient. La croix des JMJ qui était tombée sur la tête d'un évêque qui était à côté de moi, c'était Monsieur Souchu d'ailleurs, mon voisin des rédax. Et le pape était là, sous la pluie, alors on lui mettait des parapluies sur la tête, sa calotte avait volé. Et on lui disait, mais vous ne pouvez pas rester là parce que vous allez recevoir quelque chose sur la tête. Non, non, je reste avec les jeunes. Et sur l'écran, les jeunes qui étaient très excités en regardant le pape, voyaient son visage paisible et souriant. Puis tout s'est arrêté. Le pape qui était en train de faire son discours a abrégé son discours. C'est pas ça qui était important. On a exposé le Saint-Sacrement dans une monstrance magnifique qui vient du trésor de Tolède. Il s'est mis à genoux devant le Saint-Sacrement et ces 2 millions de jeunes, pendant un quart d'heure, se sont mis à genoux dans un silence total, les yeux baignés de larmes. En adoration. Le pape Benoît XVI, qui avait mis Dieu à la première place, et le pape qui a fait que l'Église, que les jeunes, que les fidèles s'agenouillent en adoration devant Dieu. Car on ne pourra pas transformer l'histoire sans se soumettre humblement à Jésus, qui est notre roi. Sans suivre ses traces, sans donner notre vie. Enfin, je termine parce que je crois que je suis trop long. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant et sa mère. Et ils se prosternèrent devant lui. La maison, comme dit Benoît XVI, c'est l'image de l'Église. C'est dans l'Église que Jésus se donne à connaître. C'est dans l'Église que Jésus nous est donné. Et dans l'Église, il y a Marie. C'est Marie qui nous donne Jésus. Vous avez remarqué qu'on ne parle même pas de Joseph dans l'Épître, dans l'Évangile des Mages. Alors que l'Évangile de l'enfance, on sait chez saint Matthieu, vient par Joseph. Il est absent ? Non. Mais Matthieu veut bien nous montrer que le Père de Jésus, ce n'est pas Joseph. C'est Dieu. Et c'est Marie qui nous donne Jésus. C'est dans l'Église que nous avons la foi. La foi n'est pas subjective, elle n'est pas la couleur de mes idées, de mes opinions, de mes sentiments. Nous croyons ensemble avec l'Église de tous les temps. C'est aussi le message que nous a laissé le pape Benoît XVI, qui a transmis fidèlement la foi, fidèle à la tradition bimillénaire de l'Église. C'est l'humilité de la foi. Je ne crois pas tout seul par mes idées originales, mais je crois avec l'Église, soumise à la parole, lue dans la tradition ininterrompue de l'Église. Ça ne veut pas dire que la fidélité à la tradition est du conservatisme. Benoît XVI n'a rien d'un conservatiste. Il garde la foi fidèlement. Mais il sait que l'Église est un organisme vivant, qu'elle est une personne, qu'elle se transforme à travers l'histoire, qu'elle progresse, mais en restant toujours elle-même. Vous vous rappelez la fameuse herméneutique, non pas de la continuité, mais l'herméneutique de la réforme et du renouveau dans la continuité de l'unique sujet Église que Dieu nous a donné, antidote à l'orgueilleuse herméneutique de la rupture et de la discontinuité avec la tradition. Demandons à Benoît XVI, pour conclure, cette humilité de la foi. Et entendons-le nous dire dans son testament spirituel, gardez, soyez fermes dans la foi et ne vous laissez pas troubler. Nous sommes dans l'action de grâce en même temps que nous recommandons son âme au Seigneur. Et nous espérons qu'il sera pour nous, pour l'Église, pour son successeur, qui se trouve bien seul finalement, je crois, qu'il est très affecté, eh bien, qu'il soit un intercesseur pour nous tous. Amen.